Ah, parfait. Oh, c'est bien. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être encore là avec vous ce matin. Et si vous me permettez, moi je vais prier pour vous aussi. Hein, que ce ne soit pas que vous priez pour moi. Père, je te remercie parce que tu es présent par ton esprit. Tu as fait de nous ta demeure et personne ne peut nous séparer de toi. Mon Père est le plus fort, disait-il Jésus. Et personne ne peut les extraire de ta main. Et c'est vrai, personne ne peut nous ravir de ta main. Tu es grand, fort dans la bataille, puissant dans tes œuvres. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Et la terre, c'est ton marchepied. Tu es grand, fort, et tu es bon, et ta bonté vaut mieux que la vie. Être assis à tes pieds vaut mieux que d'être assis sur le trône le plus exalté ici-bas. Merci de ce que tu me fais grâce. Tu nous fais grâce ensemble. Et c'est pourquoi j'amène toutes nos pensées aussi qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Et je déclare lier les puissances des ténèbres. Je les rends sourds, aveugles, muets, sans action, dans les cœurs, dans les vies, dans ce lieu, autour de ce lieu. Et Seigneur, je libère la foi et la compréhension de tes promesses ce matin. Merci pour les ministères d'anges que tu as déployés en notre faveur. Que ton nom soit béni à jamais. Toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Amen,
amen. Est-ce que, hier, vous savez, j'avais parlé pourquoi Jésus est venu sur la terre. Pourquoi Jésus est celui qui a visité la terre. Quelles étaient ses raisons? Bien sûr, il y a plusieurs raisons pour sa venue. Pourquoi Jésus est venu sur la planète Terre? C'était mon sujet. Mais aujourd'hui, donc, j'avais donné trois raisons de sa venue sur la terre. Hier, j'avais dit, une des choses, c'est parce que Dieu a donné sa parole. C'est un Dieu de parole. Quand il te donne sa parole, il tient toujours. Il ne change pas d'avis comme des humains. Et dans le psaume 138, il nous disait ceci, « Il a exalté sa parole au-delà de son renom. » Ça veut dire Dieu, même de tout ce qui est... l'intégrité de sa parole était beaucoup plus puissante que le renom qu'il pouvait tirer. Et donc, chacun d'entre nous, d'ailleurs, les gens nous respectent d'après nos paroles. N'est-ce pas? La parole démontre ton intégrité, tandis que le nom démontre ta, comment on dit, ton, les gens disent, oh, c'est prince celui-là, ou prince, ou madame celle-là. Oh. Et donc, ils vous connaissent par vos noms, de toute votre, de ce que vous êtes comme personne, mais votre intégrité est mesurée par votre parole. Et Dieu, voyez-vous, et lui, il fait la même chose. Son intégrité est marquée par sa parole. Et sa parole a plus d'importance que tout ce qui peut se passer. Amen.
Amen.
Donc, il tient à sa parole. Et c'est ce que j'aime. Le nom est souvent lié à la réputation des gens, n'est-ce pas? Quand vous dites « Monsieur Macron », c'est sa réputation, il est président et tout ça. Après, la parole montre l'intégrité. Et dans nos vies, c'est comme ça. Les gens font la différence entre l'intégrité et la réputation. Et Dieu préfère son intégrité au-delà de la réputation qu'on peut avoir de lui. C'est pour ça que quand les gens insultent Dieu et tout, Dieu ne tient pas compte, heureusement. Quand les gens sont en colère et qui insultent son nom, Dieu ne tient pas compte. Mais quand vous touchez sa parole, là, vous touchez l'intégrité de Dieu. C'est pour ça qu'il faut vraiment veiller que ça, la parole devienne quelque chose de très important. Maintenant, j'avais dit donc, il tient sa parole. Deuxième, j'ai dit, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. La deuxième raison de sa venue, c'est pour détruire les œuvres du diable. C'était pour ça qu'il est venu. 75% de son ministère, c'est destruction du plan et du projet du malin. C'était pour ça qu'il est venu. Donc, il a détruit chaque fois par ses paroles. Donc, vous trouvez ça dans 1 Jean où il dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Et nous aussi, on existe parce qu'on va copier de lui. C'est pour détruire les œuvres du diable qu'on est sur cette planète. Personne n'a choisi, je disais hier, ni sa couleur, ni son époque, ni son pays, ni sa vie. Chacun d'entre nous, personne n'a déposé un dossier en disant « Oh Seigneur, je veux être dans tel pays, je veux naître de tel endroit. » Eh bien non, personne d'entre nous, nous avons choisi. Mais Dieu, quand il a vu un problème, il nous a envoyés comme des espions sur la terre. Nous sommes déguisés en noir, en jaune, en blanc, mais envoyés comme des 007, des espions du Seigneur. Amen. Et c'est dans ce sens qu'il nous a amenés sur cette terre pour qu'on soit des êtres, des personnes qui détruisent les œuvres du diable. Donc tu es né pour ça. Donc comment on détruit les œuvres du diable? Déjà, tu commences par toi-même, ta façon de penser. Quand tu as toujours des pensées mauvaises, des pensées de destruction, des pensées de découragement, des pensées de peur, ça, c'est déjà, quand tu te bats contre ça, tu commences à détruire les œuvres du diable. Vous savez, les œuvres du diable, ce n'est pas un truc à l'extérieur. Ça commence par nous. Amen. Et donc, quand tu changes tes propos, ta façon de vivre, quand tu chasses ta peur de ton cœur, l'angoisse, la crainte, l'incertitude et toujours se sentir petit, toute cette mentalité, quand elle est détruite dans ton cœur, ça veut dire que tu détruis les œuvres du diable. Alléluia. J'avais dit que le diable n'a un seul pouvoir, l'influence. Il n'a pas d'autre pouvoir. Troisième, j'avais dit... Il est venu révéler le Père. Ça, c'est une des clés les plus importantes que de sa venue. Il est venu. Et dans Jean 17, d'ailleurs, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, si ce n'est que... » Oui, exactement. Ça veut dire, il est le chemin. Il n'est pas la destination. Beaucoup d'hommes et de femmes sont arrêtés sur Jésus. Mais Jésus veut t'amener vers le Père. C'est ça le but qu'il s'est fixé. Et beaucoup d'entre nous, on parle de Jésus, on aime Jésus, mais on n'a aucune idée de ce qui est le Père. Et quand on saisit le secret du Père, ça change tout. D'un seul coup, tu deviens fils, fille, et tu as une attitude qui est fière de ce que tu es, comment tu es créé. Tu n'as plus de doute de ce qui tu es. Tu ne te compares plus avec les autres. Alléluia. Et d'un seul coup, tu dis... « Ah, je suis heureux de ce que tu m'as donné la vie ici-bas. » D'ailleurs, il n'y a que des vainqueurs ici. Amen. Vous savez pourquoi? Sur 4 millions de spermatozoïdes, vous étiez les plus rapides. Imaginez-vous la rapidité que vous avez eue. Vous êtes venu numéro 1. Et une fois que vous êtes sur la terre, comment vous doutez de cela? Comment vous remettez en question de la grandeur de Dieu et du choix de Dieu en t'amenant sur cette terre? Donc tu es créé avec raison. Ton identité, il faut que tu saches qui tu es et ça stabilise ta vie. Et tu commences à bâtir quand tu sais qui tu es. Et après, une fois que tu sais, et à la fois quand tu sais que c'est lui qui est ton défenseur, c'est lui qui te protège, amen. Donc personne ne peut ôter votre vie parce que la main de mon Père est puissante, disait Jésus. Et ça, c'est comme ça qu'on doit saisir. À la fois, ta motivation. Qu'est-ce qui nous motive ici-bas? Souvent, nos prières sont tellement axées sur nous. Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Dieu est presque notre boy, quoi. Fais ça, fais ça, fais ça, tout le temps. Et Dieu te dit, non, je suis Seigneur. Il se doit que vous me respectez comme Seigneur. Il nous dit, amen. Il n'est pas ton boy. Il n'est pas le gardien de ta voiture. Les gens prient tout le temps, Seigneur, garde ma voiture, garde ma maison. Mais attendez, à un Seigneur, vous osez dire cela? Et vous dites tous les mots magnifiques. Oh Seigneur, tu es le grand Dieu de l'univers, fort dans la bataille, puissant dans tes œuvres. Peux-tu pas garder ma voiture? Un grand Dieu que vous venez d'annoncer, de parler de lui, et d'un seul coup, vous le mettez à un niveau d'un boy. Repentons-nous. Tout est à l'envers dans notre tête. Et ça, il faut que ça change dans nos vies et dans notre façon d'approcher Dieu. Alors, ma question aujourd'hui, parce que c'est le socle de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Ma question, est-ce qu'on peut être dans la présence de Dieu et pécher? Est-ce qu'on peut vivre dans la présence de Dieu et pécher? Je fais exprès de vous poser une question pareille. Est-ce qu'en vivant avec Dieu, est-ce qu'on peut pécher? Oui. Oui. C'est vrai. Oh, plus que ça. C'est vrai ce que tu dis. Mais cependant, Satan, qui était habitué de la présence de Dieu, rien ne lui empêchait de pécher. Ça ne vous a pas choqué, ça? Un être qui était dans la présence de Dieu continuellement, qui était celui qui... l'ange qui faisait la louange au Seigneur jour et nuit a osé pécher. Mais comment il a fait? Est-ce qu'on peut vivre dans la présence de Dieu et pécher? Question. À 10 balles. Alors, ce que je vais vous partager aujourd'hui va être la clé pour votre vie. C'est pour ça, ouvrez vos oreilles de Mickey. Franchement, quand on saisit cela, tout change dans nos vies. Tout change, totalement. Alors, le quatrième clé d'aujourd'hui, c'est, on le trouve dans Ésaïe. Parce que mon modèle par excellence, c'est Jésus, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 11. Et on commence au verset 1. Puis un rameau sortira du trône d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, il respirera la crainte de l'Éternel. Et ça parle ici que Jésus avait besoin du cet esprit de Dieu. L'esprit du Seigneur, Saint-Esprit est Seigneur. Vous savez ça? Il est Seigneur avant toute chose. Il est le patron. Amen. Donc l'esprit du Seigneur est en lui. Encore deuxième. Il dit l'esprit de sagesse, deuxième. Troisième, l'esprit d'intelligence. Quatrième, l'esprit de conseil. Cinquième, l'esprit de force. Sixième, l'esprit de connaissance. Et septième, l'esprit de crainte de l'Éternel. Et il termine avec ça, il reposera ou il respirera la crainte de l'Éternel. Il y a comme une répétition sur le dernier. Le sujet d'aujourd'hui que Jésus veut révéler dans nos cœurs, c'est qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel? Qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel? Quelle est la définition dans ta tête? Dans le monde, il y a trois définitions sur la crainte, ou même dans la Bible. Donc, la première, c'est tout d'abord, souvent je parle de la crainte de Dieu, on dit, oh là là, c'est l'Ancien Testament. C'est pas dans le Nouveau Testament, non, mais Dieu est bon. Dieu est amour. Oh, mais tu ne vas pas nous parler de la crainte quand même. Tef. Souvent, les gens me disent ça. Parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus lui-même, il respirait la crainte de l'Éternel. L'esprit de la crainte de l'Éternel était sur lui. Sans ça, il ne pouvait rien faire. Donc, s'il est mon modèle par excellence, il faut que je comprenne que la crainte de l'Éternel n'est pas quelque chose de l'Ancien Testament. Ce n'est pas la loi, comme certains le disent. Et non, c'est pas, ça ne fait pas partie de la loi, ça fait partie de l'intégrité même de la présence de Dieu. Alors, le psaume verset 19 nous dit ceci, « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. » Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps dans la crainte de Dieu. Il n'y a pas l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, dans l'époque. Non, c'est tout le temps. Amen. Et elle subsiste pour toujours. Encore un autre passage nous dit ceci. Que ton cœur n'envie point le pécheur, mais qu'il y ait toujours, toujours, la crainte de l'Éternel. Que dans ton cœur, il y ait la crainte de l'Éternel. Dans Hébreux, chapitre 28, verset 14, il dit « Heureux l'homme qui est continuellement » c'est le Nouveau Testament, l'Hébreu. « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Waouh ! Ça veut dire, Satan, malgré qu'il était dans la présence de Dieu, il n'avait plus la crainte de Dieu en lui. Il y a trois formes de crainte qu'on doit comprendre bibliquement. La première, c'est une crainte naturelle. Je suis allé dans le dictionnaire et j'ai vu qu'est-ce que ça veut dire la crainte. Nous dit ceci, appréhension, inquiétude, angoisse, anxiété, frayeur, peur, effroi, épouvante, terreur. Ça, c'est des craintes normaux. Hein? Dans la vie, si tu vois un serpent, tu es dans tous les états. Quand les guêpes sont autour de toi ou bien des frelons, je peux te dire, tu cours et tu crains. Ça, c'est une crainte normale et naturelle. Et Dieu ne t'en veut pas pour autant. Ok, c'est pas cette sorte de crainte que la Bible parle. Il y a une deuxième forme de crainte. La deuxième forme de crainte, vous trouvez dans Timothée où il dit « Je ne vous ai pas donné un esprit de crainte et de timidité, mais un esprit d'amour, de sagesse. » Et la Bible, elle est très claire dans ce domaine en disant « Une crainte exagérée et démoniaque. » C'est un esprit. C'est pour ça ce texte nous dit « Un esprit de crainte. » Ce n'est pas une idée de crainte, c'est un esprit de crainte. Il y a des gens, ils sont vraiment tourmentés de crainte. Ça dépasse leur effort humain, leur volonté. Ils sont comme ça, terrifiés, paralysés. Je me rappelle un jour, un de mes amis, on était ensemble en voiture, et lui, il était dans un bus à l'époque, et le bus a été touché par un train. Donc, il ne sait pas comment, il s'est trouvé dehors et il a vu des gens morts partout. Et quand on est en voiture avec lui et que je passe devant les chemins de fer, mais il est presque... Il me dit, non, pas Steph, tu ne peux pas rester là. Je lui dis, mais attends, ne fais pas doucement, vas-y, file. Il est tellement terrible. Mais c'est un esprit. C'est un esprit de crainte. Il n'arrive pas à se contrôler. Il peut vous être violent. Juste, et ça s'appelle esprit de crainte. C'est un démon. C'est un esprit. La Bible parle qu'il y a des démons. Et ça m'est arrivé de chasser des démons sur les gens de crainte. Un esprit de crainte, un esprit de terreur. Que quand je les chasse, les gens ils sont comme libres. D'un seul coup, ils sortent. Certains qui sont tellement la crainte de la mort, la crainte de tout ce qui est la nuit, en tant que chrétien, qui reste la lumière allumée parce qu'il craint tellement. Ça, c'est la crainte démoniaque. 2 Timothée, chapitre 17, chapitre 1, verset 17. Dieu nous a donné, ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais il nous a donné un esprit d'amour, de sagesse. Donc ça, c'est la clé que Dieu veut nous donner. Troisième forme de crainte, ce qu'on appelle la crainte de l'homme. Ah, vous connaissez cette crainte de l'homme? Le « quand dira-t-on ? » Oh là 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 là, si je parle à ma famille, ça, maman, si je leur dis que je fréquente une église évangélique, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Il y avait dans la Bible un homme comme ça qui s'appelait Saül. Saül craignait plus ce que les Israélites pensaient de lui au lieu de craindre l'Éternel. D'ailleurs, quand Dieu lui a donné l'ordre d'aller attaquer un peuple et de détruire tout ce qui était dans ces nations-là, il a gardé un peu parce que de peur que le peuple ne se révolte contre lui. Et à la fin, Dieu était obligé de retirer la royauté sur cet homme. Et pourtant, il y avait l'autre, qui s'appelle David. David a fait des bêtises. Beaucoup de bêtises. Et cependant, cet homme, les amis lui disaient, maintenant que Dieu t'a oint, qu'il y a un appel sur toi, ce roi, on va se débarrasser. Donc ça veut dire Saül. Ça veut dire le premier roi, c'était Saül. Le deuxième roi, c'était David. Mais il n'était pas encore roi. Et Saül le poursuivait partout pour le tuer. Et par deux fois, David avait l'occasion de tuer Saül. Par deux fois, il s'approche dans la grotte, il prend l'épée, et tous les copains autour, il lui dit, tue-le, allez, tue-le. Il dit, non. Il commence à trembler, nous dit la Bible. Il ne tremblait pas parce qu'il avait peur de Saül. Parce qu'il disait, un jour, il y a longtemps, même si aujourd'hui Dieu n'est plus avec lui, le Saint-Esprit est passé par lui. Comment puis-je le toucher? C'est le oint de l'Éternel. Je ne le toucherai pas. Et nous, on se permet de parler en négatif sous les autorités, mais on s'en fiche, même si vous avez raison. Ma mère spirituelle, mes parents spirituels, pendant 5 ans où ils m'ont formé, la première chose qu'ils m'avaient enseignée, c'est « tu ne toucheras pas les oints de Dieu ». Même si tu aurais des choses que tu as remarquées, elle me disait « Dieu te fait remarquer pour que tu te mettes à genoux et tu cries pour eux, mais tu ne parleras pas contre eux. » Attention, elle me disait. Crains Dieu, elle me dit. Touche pas le Christ qui est en eux. Nous, on ne craint plus Dieu, on parle comme si c'est rien. On parle à gauche, à droite. Oh là là, oh celui-là, oh celle-là. Mais je dis, mais Seigneur, crains Dieu. Et mes raisonnements, il y a des réveils en Afrique, il y a des réveils en Amérique du Sud. Pourquoi il n'y a pas de réveil en Occident? C'était ma question. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pour quelle raison? Pourtant, il y a des gens honnêtes, droits, qui aiment Jésus de tout leur cœur. Vous aimez Jésus? Si vous n'aimez pas Jésus, qu'est-ce que vous ferez ici? Honnêtement. C'est parce que vous aimez Jésus que vous êtes là. Mais j'ai dit, mais pourquoi? Chez nous, un homme, s'il sait que tu es chrétien, il a tellement le respect de Dieu, ils ne mettent jamais la Bible en dessous de leur hanche. Ils posent toujours la Bible sur un hauteur. Ils ne la lisent pas. Ils ne la connaissent pas. Mais ils ont un tel respect pour l'Éternel. Nous, on n'a pas cette conscience. Et je comprends que ces réveils dans ces pays-là, ils ont la crainte de Dieu. Ils reconnaissent. Un des signes de la crainte de Dieu, c'est qu'on reconnaît nos fautes. En France, on discutaille. On a raison. Attention. Je sais. Là-bas, pardon Seigneur. Ce n'est pas une culpabilité que je vous parle. Ils ont un tel respect de Dieu. Leur attitude et leur comportement attirent Dieu. C'est impressionnant. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Un homme, pourtant, Moïse a dit une chose qui m'a choqué. Vous le trouvez dans Hébreux chapitre 12, où Moïse, il dit une chose étonnante. Hébreux chapitre 12, verset 21. Il dit ceci. Est-ce un spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. La présence de Dieu qui était là, il était épouvanté et tout tremblant. Pourtant, c'est la présence de Dieu. Dans Hébreux, Hébreux 12. Verset 21. Ça veut dire, on dirait que dans Apocalypse, vous n'avez pas vu, quand Jean, qui se mettait sous la poitrine de Jésus, et voilà, quand il a vu Jésus, il perda sa force. Et il tomba par terre. Paul dit, je ne connais pas le Christ dans la chair. Mais c'est Christ, Christ ressuscité, une révélation de ce qu'il a. Et la crainte de Dieu, tu ne le peux pas l'inventer. Il n'y a que Dieu qui peut t'instruire. C'est ça qui est étonnant. Même, je vais aller loin, même la repentance n'est pas un regret, mes bien-aimés. La repentance, ce n'est pas avoir des remords. Parce que Judas a eu des remords, nous dit la Bible. Ça ne lui a pas empêché de se suicider. Le remords n'est pas la repentance. Le regret n'est pas la repentance. Demander pardon n'est pas la repentance. La repentance est un cadeau du ciel. Il faut que tu cries pour que la repentance te soit donnée. De la même manière, la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose que Dieu seul donne. L'accès dans la crainte de l'Éternel, c'est quand Dieu t'instruit. Et ce qui est, ce texte nous dit, « Je t'apprendrai la crainte de l'Éternel. » Amen. « Je t'apprendrai. » Voilà, c'est le psaume chapitre 34, verset 11. « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Waouh ! Ça veut dire que tu ne le peux pas inventer, la crainte de l'Éternel. C'est quelque chose que Dieu dépose sur toi, t'enseigner, amener sur toi. Mais pour celui qui a faim et soif de cette crainte. C'est pour ça, ce n'est pas compréhensible avec notre petite tête. Ce que je vous dis n'a rien de religieux, ce que je vous dis n'a rien de légaliste, c'est le cadeau qui vient du ciel. C'est la manifestation du Saint-Esprit en toi, parce que un attribut du Saint-Esprit, c'est la crainte de l'Éternel. Il te fera respirer la crainte de l'Éternel. Si tu ne désires pas cela, le Saint-Esprit, il n'y a que lui qui peut te donner la crainte de l'Éternel. Ok ? Ça va, vous me suivez ? Ok. Un jour, est-ce que vous avez connu... Oh, la plupart peut-être, il y a beaucoup de jeunes ici, non ? Ça va. Il y avait un ministère très connu. Vous avez peut-être connu Jim Baker. Vous avez entendu parler de Jim Baker ? Ok. Jimmy Swaggers ? Ok. Les deux étaient des évangélistes de télévision très connus. Jim Baker avait plus de 15 000 églises. Quand on ouvrait la télé pour écouter, c'était un télé-évangéliste connu. Des miracles, des signes, de prodiges se passaient. C'était impressionnant. Peut-être que vous connaissez, non ? Jim Baker et Jimmy Swaggart, on le connaît. Ils sont très connus. Bon, en tout cas, c'était des gens qui m'impressionnaient. J'ai 65 ans, donc vous me comprenez. Vous me faites grâce. Alors, et cet homme, Jim Baker, à un moment, il a commencé à détourner de l'argent de l'église. Même il a fini par tromper sa femme. Et pourtant, il continuait à la télé faire des choses étonnantes. Personne ne le savait. C'était dans les années 80. C'est des vraies histoires que je vous raconte. Du 1983 jusqu'à 1990, c'est un homme qui a trompé le monde entier. Et dire, dans ce temps où il y avait la télévision, on voyait des gens guéris, des gens délivrés, des miracles se passer. Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Comment un gars qui vit dans le péché comme ça, comment tu agis avec lui? Mais qu'est-ce qui t'a pris? C'était pas votre question? C'est ma question. C'était ma question. Jusqu'au jour où j'ai eu la réponse. Alors, cet homme, le fisc l'attrape, parce qu'il avait détourné beaucoup d'argent, et on le met en prison. Quand il est allé en prison... Le désastre que ça a fait, les gens qui ont abandonné Jésus, les gens qui ont, parce que leurs yeux étaient fixés sur des humains, ils ne connaissaient pas Jésus. Les gens qui ont abandonné la foi, ils étaient, parce que, voyez-vous, ils ne décalent pas leur vie entre l'homme et Dieu. Quand l'homme tombe, tout tombe, quoi. C'était un débâcle. Je me rappelle, en France, on parlait de ça. Oh là là, on avait honte. Alors, un de ses collaborateurs est allé le visiter en prison. Il avait travaillé pendant des années avec lui, c'était son pasteur. C'était un grand homme, tout le monde connu. Il vient en prison, il le rencontre. Jim sort au parloir, c'est ça on me dit ? Et il sort et commence à lui dire, tu sais, ce matin, on a gagné 10 personnes pour Christ. Oh, Dieu a agi, magnifique. Oh, l'autre, il le regarde, il dit, non, ce gars, il n'y a aucune repentance dans son cœur. Il dit, Dieu a fait des choses magnifiques. Alors l'autre l'écoute. Mais il lui dit, et tu sais, cette prison, pour moi, ce n'est pas le jugement de Dieu sur moi. C'est la miséricorde de Dieu pour moi. Oh, il dit, oh non. Oh non, le gars, il est encore plus bas, il fait. Voyez-vous comment... il est tourmenté. Alors il écoute. Il en avait marre. Et à la fin, il lui dit, je peux te poser une question, pasteur? Et il lui dit, oui, pose. Mais c'est quand que tu as lâché Dieu et que tu n'aimes plus Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, mais j'ai jamais cessé d'aimer Jésus. J'ai toujours aimé Jésus et je l'aime toujours. Tiens. Ils lui disent, ce n'est pas l'amour qui me manquait pour Jésus. C'est la crainte de l'Éternel qui m'a quitté. Nuance, mes bien-aimés. C'est pour ça que je vous ai dit, ouvrez bien les oreilles de Mickey. On peut aimer Jésus et pécher. Satan était dans la présence de Dieu, il a quand même péché. Comment ça peut se faire? Parce que la crainte de l'Éternel n'était plus dans son cœur. Vous savez la crainte de l'Éternel, comment elle va? Elle s'en va quand tu t'habitues de la présence de Dieu. L'habitude. Des fois, les gens viennent pour la première fois à l'église, ils sont saisis par Dieu. Et nous qui venons 1000 fois à l'église, on dit, oh, mais c'est bien. Oh, comment ça s'est passé? Oh, tant mieux. Oh, gloire à Dieu. Mais on ne se pose pas la question, pourquoi moi, je ne suis pas saisi comme lui? C'est la même présence. C'est la même personne. C'est le même louange. C'est la même adoration. C'est les mêmes actions de grâce. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'on refroidit? L'habitude est plus fort que le désir. Souvent, je dis ça. L'habitude est beaucoup plus fort que tes désirs. Tu peux désirer de bonnes choses, le réveil et tout ce que tu veux, mais tu es tellement habitué de la présence de Dieu, tu ne le crains plus. Aimer n'est pas la définition de la crainte de Dieu. Que vous le vouliez ou pas, Dieu est à la fois saint et amour. Il n'est pas qu'amour. Aujourd'hui, nos prédications sont totalement que Dieu est bon, Dieu est amour, tu es aimé, et tu fais tout ce que tu veux, Dieu t'aime. Et dès qu'on vous dit le contraire, on dit, dans cette église, il n'y a pas d'amour, et on s'en va. Dieu est amour, oui. Mais Dieu est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de quoi? C'est incroyable. Un jour, je me suis posé cette question. Pourquoi Moïse demande à Dieu qu'il lui montre la gloire? Mais pourquoi il dit, Seigneur, montre-moi ta gloire? Mais ce gars, il n'a pas vu des miracles. Il n'a pas vu la mer de rouge se séparer en deux. Est-ce qu'il n'a pas vu les mannes descendre du ciel? Est-ce qu'il n'a pas vu les cailles venir? Mais qu'est-ce qu'il y a plus miracle que ça? Mais qu'est-ce qu'il demande? La gloire? Parce que dans ma tête, je mélangeais la gloire. Je ne pensais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était la gloire. Les miracles, les signes, les prodiges, ce n'est pas la gloire. Et Dieu lui dit ceci. C'est incroyable. Il lui dit, je ferai passer devant toi mon nom, ça veut dire ma réputation et ma bonté. C'est étonnant, deux choses. La bonté dans son intégrité, ça veut dire sa parole. Il m'a dit, le Seigneur, c'est un matin, j'avais posé cette question, Seigneur, c'est quoi ta gloire? S'il te plaît, explique-moi. Il m'a dit, ben, je vais t'expliquer, c'est deux choses. C'est ma sainteté et mon amour, ensemble, s'appellent la gloire. Je répète, ma sainteté et mon amour, ensemble,
s'appelle la gloire.
Si vous lisez Exode chapitre 34, vous allez être étonné de voir dans cette histoire que Dieu dit, je ne peux pas venir avec ce peuple qui a le cou raide. Si je viens, ils mourront. Je t'enverrai mon ange. Ça veut dire Dieu ne t'a pas abandonné. C'est pour ça que je vous ai dit, on peut aimer Jésus sans le craindre. L'ange de Dieu est avec toi.
Oui.
Dieu envoie un petit morceau de lui, mais s'il dit, si je viens, tu mourras. Dans Actes, il y a eu un couple qui voulait mentir. Vous les connaissez, ces deux, c'est un couple. Anania et Saphira. Ce couple, ils ont vu que tout le monde vendait leurs biens et qu'ils donnaient à l'église. Oh, pour ne pas être moins que les autres. Le camp du renton a de l'importance, voyons. Alors ils ont dit, on va donner que la moitié. Mais on va dire à tout le monde qu'on a vendu notre terrain et qu'on a donné tout. Alors, ils rentrent, mais ils ne savaient pas que Dieu savait tout. Ils rentrent, ils mentent à Dieu. Et Pierre lui dit, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Tu mourras. Bam! Le gars est tombé mort, raide. C'est pour ça, la crainte de l'Éternel, quand elle vient, à la fois ça amène le respect de qui il est, à la fois ça amène la grandeur de son amour et de sa générosité, mais on ne peut pas vivre dans cette crainte de Dieu si on vit dans le mensonge, dans les critiques, dans les jugements, dans les mauvaises attitudes de cœur. À la fois je l'aspire, à la fois je tremble. Mais il n'y aura pas de réveil si les deux ne se conjuguent pas. Il n'y en aura pas. Aujourd'hui, notre vrai problème, je vous ai dit tout à l'heure, l'habitude. Le deuxième problème, vous savez c'est quoi? C'est la tolérance. Aujourd'hui, voir des films que deux femmes qui s'embrassent, deux hommes qui s'embrassent, ne vous touchent plus. Les chrétiens. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Vous savez, pour moi, ce que c'est la crainte de Dieu? Ce que Dieu aime, j'aime. Ce que Dieu déteste, je déteste. C'est ça, ça veut dire la crainte de Dieu. Ce que Dieu aime, j'aime. Ce que Dieu déteste, je déteste. J'en ai horreur. À ce moment-là, ça, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Donc, nos tolérances, nos habitudes peuvent nous jouer des tours. Vous arrivez en retard au boulot? Est-ce que vous arrivez en retard pour prier? Eh bien, oui. Voyez-vous combien la crainte de Dieu nous a quittés? On aime Jésus. Je vous assure, si je vous dis ici, qui n'aime pas Jésus, vous dites, mais tu fuis, ça ne va pas, non? J'aime Jésus. Aimer ne donnera pas la force de la plénitude de ce qui est Dieu dans ta vie. Impossible. Impossible. Ça va, je ne vous choque pas? Allô? Est-ce que vous rêvez le réveil dans votre nation? Si la crainte de l'Éternel conjuguée avec l'amour de Dieu n'est pas là, vous ne l'aurez pas. C'est pour ça, hier, j'ai commencé en disant, Dieu cherche une personne. Une personne. Qui le craindra au point de donner sa vie pleinement pour son Dieu. Une personne. Dieu cherche un homme. Une femme. Le réveil dans le pays de Galles a commencé par deux mamies qui ont prié pendant des années. Et un jour, Dieu leur met dans leur cœur d'aller chercher un ministère très connu qui s'appelle Campbell, je crois, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas encore l'histoire dans la tête. Et ils l'ont écrit, il était aux États-Unis. À l'époque, vous savez, c'était avec des bateaux que vous venez des États-Unis en Europe. Ils lui ont écrit en disant, est-ce que vous ne pouvez pas venir pour 2 mois dans notre nation? Le gars, il dit, mais vous êtes folle, les mamies, je ne viendrai pas pour 2 mois. Alors, ils ont écrit, est-ce que vous ne pouvez pas venir pour 1 mois dans notre nation? Non, je ne viens pas pour un mois, c'est trop. Encore, ils écrivent, est-ce que vous ne voulez pas venir pour 2 semaines? Non, je ne viens pas pour 2 semaines, allez, je vais venir pour 1 semaine. Il dit, tape là, viens vite. Ces femmes, cet homme est venu en Angleterre, il est resté 2 ans. La présence de Dieu a inondé. Seulement la crainte de ces 2 femmes a ouvert le ciel. Hier, je vous ai raconté de cet homme qui est venu en Éthiopie. Moi, je suis éthiopien de souche, pour ceux qui ne le savent pas. Cet homme est venu pendant 30 ans en Éthiopie. Il jeûnait 40 jours chaque année. Pendant 30 ans, il a jeûné. C'était un Hollandais. Il ne parlait pas l'éthiopien. Et nous, quand j'étais petit, je me rappelle, on était en voiture avec papa devant le feu. On voyait cet homme habillé en éthiopien marcher comme ça, parler tout seul. On disait, mais mon père dit, il a perdu les boules. La boule, c'est fini, maman, il a perdu la tête. Tu as vu ce blanc là? Qu'est-ce qu'il fout ici? On disait ça. On disait ça. Le gars, il fait. Et un jour, un de mes amis me dit, je lui dis, tu as vu, il y a un blanc là, il a perdu la tête là. Il me dit, mais non, cet homme vit chez nous. Ah bon? Oui, c'est un missionnaire. Un missionnaire? Oui, mais ça fait des années qu'il est là. Il ne parle pas notre langue. Alors, ce qu'il fait, il prie en langue, il fait le tour d'Addis Abeba. Il prie, tous les jours il prie. Pendant 30 ans. Et un jour, j'ai raconté ça hier, mais je le répète aujourd'hui. Un jour, il était en train de prier à la maison. Il était en train de marcher à 1 mètre de la terre. Comme ça. Dans le vide. La maman de mon ami, comme par hasard, elle rentre dans la pièce. Elle a vu cet homme marcher à 1 mètre de la terre. Elle s'est évanouie. Parce qu'elle n'a jamais vu des trucs comme ça. Et cet homme dit, le réveil va venir en Éthiopie. Les gens vont vivre des choses extraordinaires. Le ciel s'ouvre, des signes, des prodiges, des miracles vont accompagner. La gloire de Dieu se manifestera. La crainte de Dieu saisira la nation. Il n'a jamais vu se réveiller de ses yeux. Cet homme, 1 ou 2 ans plus tard, il a dit aux parents de mes amis, il a dit, voilà, tu me prépares le manger que j'aime. Parce qu'il avait une nourriture qu'il préférait. Et achète-moi un habit tout neuf, il fait. Elle lui achète un habit tout neuf, il ne comprenait pas. Il dit, je vais y aller à la maison. Ils ont dit, il va partir en Hollande. Bon, le gars, il est bon, il est un peu déphasé, mais bon, on fait ce qu'il nous demande. Alors, ils lui ont habillé tout ça, il a mangé. Il a dit, je vais y aller à la maison. Il était heureux, il ne comprenait pas. Après avoir fini le manger, il dit, au revoir. Il est parti à la maison du Père. Parti à la maison du Père. Quelques années plus tard, le réveil a éclaté dans le pays. Il y a eu un coup d'État. Les choses étonnantes commencent à se passer dans le pays. Les démons commencent à partir. Et le pays était bouleversé. Le gouvernement, ancien gouvernement, a été renversé. L'empereur n'était plus au pouvoir. Des généraux ont pris le pouvoir. Et c'était la terreur. C'est ça le réveil? Eh bien, tellement tous on était terrorisés, on a quitté le pays. Mais j'avais vu déjà la gloire de Dieu dans mon pays. Et c'est comme ça que je me suis converti là-bas, en 82. Fin 82, là, la révélation de Jésus, dans ma chambre. Des miracles se passaient partout. La crainte de Dieu avait tellement saisi. L'odeur de la mort était partout. Parce que les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires s'entretuaient. Et nous, on avait peur de mourir au milieu de l'histoire. Un réveil. Le pays bouleversé. 30% de la population est devenue chrétienne. Pourtant orthodoxe de souche. On a chez nous à peu près 25% de musulmans et le reste, c'est 60-75%, c'est des orthodoxes. Et les gens ont été gagnés au Seigneur. Et quand une autre révolution est venue, cette église souterraine, quand elle est sortie, elle a bouleversé le pays. Aujourd'hui, le premier ministre, c'est un chrétien, baptisé du Saint-Esprit, qui parle en langue. C'est incroyable. Dieu ne peut pas trouver une personne en France, une personne qui veut vivre dans l'intégrité, une seule. Une seule personne a bouleversé ma nation. Où est ton cœur? Qu'est-ce que tu cherches? De quoi as-tu soif? C'est quoi qui te plaît ici-bas? Quelles sont tes motivations? Ah. Alors, quelles sont les conditions? Parce que je ne vais pas vous tabasser comme ça. Quelles sont les conditions pour avoir la crainte de l'Éternel? Alors, je vais venir sur ça. Tout d'abord, je vous ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui enseigne la crainte de l'Éternel. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit trois choses. C'est le psaume 34, verset 11. « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Et au verset 12, « Quel est l'homme qui aime la vie, qu'il désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue, premier, du mal, et tes lèvres de paroles trompeuses, deuxième. Amen. Et Dieu t'enseigne en disant, être enseigné est un choix. Choisis, te dit le Seigneur. Il y a trois choses. Éloigne tes langues de mensonges. Surveille ta bouche. Parce que ta parole est l'esprit et vie. Ce que tu dis crée. Mais ce que tu parles, c'est quoi? C'est l'interprétation de tes pensées. Parler, c'est quoi? C'est interpréter nos pensées, c'est ça, parler. Ou en français, ou en anglais, ou en italien, ou en allemand, ou en éthiopien. On interprète ce qu'on pense. C'est pour ça, veille sur tes pensées. Attention de ce que tu dis. De ce que tu dis sur Dieu, de ce que tu dis sur ton pays, de ce que tu dis sur tes frères et sœurs, pour ce que Dieu a appelé. Amen. Veille sur ta parole. Et éloigne de ton cœur les pensées trompeuses. Oula, hein? Les paroles trompeuses. La crainte de l'Éternel est un choix. Amen. C'est ça. Jésus, et il dit... Il respira la crainte de l'Éternel. Le Proverbe chapitre 1, verset 28 nous dit ceci. « Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. » La crainte de l'Éternel est un choix. Tu as un choix. Le chef de ton âme, c'est qui? C'est ta volonté. Tu as le choix. Choisis de craindre Dieu. Choisis. Et le reste, Dieu l'ajoute. Préserve ta langue, tes lèvres de mensonges, choisis de craindre Dieu. Aujourd'hui, Dieu te donne cette chance. Choisis. Je t'en prie, choisis de craindre Dieu. Et tu vas avoir la gloire de Dieu sur ta nation, sur ta famille, sur ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu agir. Ok? Choisis. Ça va, je ne suis pas trop long. Je vais essayer de finir au plus vite. Alors, quels sont les bienfaits de la crainte de l'Éternel? La Bible nous dit dans le psaume 25, verset 14, « L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent, cela pour leur montrer le secret de son alliance. » Quoi? Dieu peut être ami avec quelqu'un? L'amitié de l'Éternel. Dieu se fait ami de quelqu'un quand tu le crains seulement. De celui qui ne le craint pas, il ne va pas être ami avec lui. L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Qui veut être ami de Dieu? Tu veux être ami de Dieu? Et je peux te garantir, il te montrera le secret de son alliance. Vous savez, quand tu ouvres la Bible, les choses que tu as lues maintes fois, tu n'as rien vu, d'un seul coup révélation. Ce que je vous raconte, ce n'est pas parce que j'ai appris ou des choses, non. Il me révèle des choses comme ça, des secrets comme ça, simples, que personne n'avait pensé. Bam ! Il t'ouvre l'intelligence. Il te fait saisir des choses cachées. C'est pour ça, l'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Cela, pour lui montrer le secret de son alliance. L'alliance est un secret. L'alliance de Dieu est un secret. Vous ne pouvez pas inventer. OK ? Le psaume 25, verset 12, nous dit aussi quelque chose d'intéressant. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Waouh ! Nous, on fait nos choix d'après ce qu'il nous rapporte. Moi, à l'époque, même pour changer une ville, j'ai demandé, Seigneur, est-ce que tu veux que je change ? Moi et mon épouse, on voulait, des amis, une partie de ma famille est au Canada, d'autres sont aux États-Unis. Le salaire est beaucoup mieux. Un des pasteurs, un de mes amis m'a dit, Tef, viens ici, moi je te donne un salaire intéressant. Qu'est-ce que tu fais en France ? Mais il ne sait pas que moi, toujours je pose la question au Seigneur. Moi et ma femme, on s'est assis, on a dit, toi, qu'est-ce que tu dis, Seigneur ? Je te veux ici. C'est pas grave alors. De toute manière, je ne mangerai pas plus qu'une assiette. Je ne porterai pas plus qu'une chemise. Je n'aurai pas plus qu'un lit. Eh bien, je suis heureux. Là où Dieu te veut, tu es heureux. Amen, amen. Alors, il te montrera la voie que tu dois prendre. Quand tu crains Dieu, Dieu te montre le chemin. Ce que tu dois faire dans ta vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il m'a dit, achète la maison. Hier, j'avais raconté cette histoire. Quand il m'a dit, achète une maison. J'ai dit, d'accord, mais Seigneur, le prix, je ne sais pas. Où veux-tu que je le fasse ? C'est quoi ? D'accord, dors. J'ai dormi. Dans mon rêve, j'ai eu le prix de ma maison. Le matin, je me suis levé, je lui ai dit à ma femme, j'ai le prix, j'ai le prix, j'ai le prix. Et quand on a fouillé sur les journaux, le prix de ma maison était des maisons délabrées qu'on a vues. Une femme m'appelle, c'était une agence, elle m'appelle, elle me dit, Tef, monsieur Teferi, je vous ai trouvé une maison qui vous correspond. Je dis, ah bon ? Elle dit, mais venez voir. Je suis allé voir, moi et ma femme, on a dit, ça c'est notre maison. Mais il y avait 70 000 euros de plus sur mon rêve. 70 000 euros, c'est pas 70 000 francs. 70 000 euros de plus de mon rêve. Mais quand Dieu l'a dit, s'il a dit, je ne m'inquiétais pas. Et à la fin, il m'a dit, vous avez aimé cette maison ? J'ai dit, ah ben oui, je l'ai aimé. Et qu'est-ce qu'on fait alors ? Je lui ai dit, si je vous dis mon prix, vous n'allez pas être contente, madame. Alors, elle m'a dit, dites toujours, elle fait. Je lui ai dit le prix, elle s'est mise en colère. Elle a dit, vous vous moquez de moi, monsieur. Elle a sorti sa cigarette, elle a commencé à fumer. N'empêche, quelques semaines plus tard, Le propriétaire qui avait entendu pendant 2 ans la vendre et personne n'était venu visiter, il a voulu nous le vendre au prix exact de ce que j'ai vu dans mon rêve. Voyez-vous, mes bien-aimés, quand tu crains Dieu, le Seigneur te montre la voie de ce que tu peux faire. Alléluia. La crainte de Dieu, ça montre la voie de l'Éternel. Encore, alléluia. Ecclésias chapitre 8, verset 12, nous dit ceci. Le bonheur est pour celui qui le craint. Tu veux le bonheur dans ta vie ? Crains Dieu. Voilà le bénéfice de la crainte de Dieu. Ecclésias chapitre 8, verset 12 à 13. Cependant, quoi le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il en persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui le craignent, Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Amen. Quand tu crains Dieu, le bonheur t'accompagne. Le bonheur et la grâce accompagnent pour ceux qui craignent Dieu. Encore, Deutéronome chapitre 6, verset 24. L'Éternel nous a commandé, Deutéronome chapitre chapitre 6, verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux. Tu veux être toujours heureux? Eh bien, crains Dieu. Crains Dieu. Le psaume 31, verset 19. Oh, combien est grande ta bonté. Pour qui? Voilà. Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Dieu est bon pour ceux qui le craignent. Il laisse même les méchants amasser pour le juste, nous dit. Amen. Vous allez être surpris comment Dieu fait des choses. Pour celui qui le craint. Dieu est bon. Sa bonté vaut mieux que la vie. Dieu est bon. On peut le dire ensemble. Dieu est bon. Amen. Et je veux craindre Dieu pour que sa bonté m'accompagne tout le temps. Amen. Je veux craindre Dieu pour que sa bonté m'accompagne tous les jours. Amen. Encore. Allez, je vous fais grâce. Je vais sauter certains. Le psaume 115, verset 13. Psaume 115, verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Amen. Ça veut dire toute une famille. Et il bénira. Dieu s'engage. Je vous ai dit, Dieu est un Dieu de parole. Il estime sa parole. C'est son intégrité. Mais il y a des conditions. La condition, tu me crains, alors je te bénis. Alléluia. Psaume 128, versets 1 à 4. Quand il est heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains. Waouh! Vous n'avez pas remarqué? Les chrétiens, les vrais chrétiens qui craignent Dieu, quand ils se mettent dans une boîte, la boîte fleurit, la boîte prospère, la boîte marche. Mais parce qu'un autre, un chrétien qui ne craint pas Dieu, à peine il rentre, la boîte ferme. La boîte, cool. Oh, je ne sais pas pourquoi ces choses se passent. Crains Dieu. Crains Dieu. Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Ce que tu touches sera béni. Amen. Crains Dieu. Allez, je vais faire vite parce que les enfants sont là. Ok. Continue. Celui qui craint Dieu n'est jamais visité par le malheur. Vous le savez ça? Le proverbe 19, verset 23. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Ça veut dire celui qui craint Dieu. Le Seigneur, même sa nuit, c'est une nuit de repos. Amen. Renouvelé. Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Il n'y a pas de crainte de l'Éternel sans être accompagné de l'humilité. L'humilité, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi l'humilité? Être enseignable. Quelqu'un qui est humble est toujours enseignable. Si le jour où tu n'es plus enseignable, ben, la crainte de Dieu n'est pas avec toi. L'humilité est étroitement liée à être enseignable. Si tu crois tout savoir, eh ben, tu as tout perdu. Sois enseignable. Personne n'est parfait. Dans tout ce que je vous dis, peut-être dans les mois peut-être à venir, peut-être je vais dire, oh là là, tel endroit, je me suis trompé, tel endroit. J'ai pas de problème à reconnaître ce qui ne va pas. Amen. La crainte de l'Éternel est accompagnée de l'humilité. Ok, allez, fais vite, Tef. Psaume 33, versets 18 à 19. Psaume 33, versets 18 à 19. Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent. Ça veut dire Dieu ne t'abandonne plus. Tout le temps, il a les yeux sur toi. Si quelqu'un ose faire du mal à toi, égare à lui, le pauvre, il va avoir des problèmes. Voici l'œil, psaume 33, versets 18 à 19. Voici l'œil de l'Éternel et pour ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Ça veut dire, malgré que tout le monde vit le contraire, toi tu vivras autre chose. Tu ne manqueras de rien. Voilà le bénéfice de la crainte de l'Éternel. Le psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Vous savez qu'est-ce que j'ai compris sur ça? La Bible nous parle qu'on a des anges gardiens. Est-ce que vous savez que vous avez des anges gardiens? Un jour, ma tante, elle voulait que j'amène mon cousin en disant qu'il était mon frère. Et ma sœur, qui était à l'époque hôtesse de l'air, elle est venue me dire, tu sais, Tati, elle veut que tu amènes tes cousins qui sortent du pays, parce qu'à l'époque, on les mettait directement dans l'armée, et ben, ils mouraient. Et bien, elle me dit ça. Je lui dis, écoute, Noun, moi, je ne peux pas mentir. Ma tante, je l'aime, mes cousins, je les aime, mais je sais, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas faire ça. Et que maintenant, Seigneur, tu as entendu, viens à mon secours. Je dis ça. 6 mois ou 1 an plus tard, je suis allé au pays. Et j'avais la peur de ma vie parce que j'ai une seule tante. Alors imaginez, une seule tante, si avec tout ce que je n'ai pas fait pour elle, si elle me voit, elle va me zigouiller, je me suis dit. Mais j'avais un cadeau, je suis allé avec mon cadeau chez elle, doucement. Je toque à la porte, je rentre et elle m'accueille avec joie. J'étais surpris. Je dis, qu'est-ce qu'il lui prend? Oh, mon fils, viens, assieds-toi, qu'est-ce que tu veux boire et tout ça? J'ai des choses à te raconter. J'ai dit, ah bon? Et elle a oublié, alors j'étais content. J'ai dit, elle a oublié, ouf. Alors il me dit, tu sais qu'un jour tu es venu à la maison? Je dis, moi? Je n'avais pas mis mes pieds, il y a 6 mois ou 1 an que je n'ai pas mis mes pieds là-bas. Il me dit, un soir, j'étais dans mon lit, il me dit. J'étais allongé dans mon lit, quelqu'un a toqué ma porte de ma chambre. J'ai dit, oui, entrez. Tu ouvres, c'était toi, il me dit. Je dis, quoi, moi? Je dis, oui, c'était toi. Et tu m'as dit, mais Tati, je ne peux pas mentir et tu me demandes de mentir. Mais je prie pour que Dieu te donne la solution. Mais moi, je ne peux pas mentir. Et tu m'as dit ça. Et je t'ai dit, non, t'inquiète pas, tu n'as pas à mentir. Et tu es tourné, tu es parti. En fait, c'était mon ange. Vous savez comment je le sais? Dans Actes, quand Pierre était en prison, il sort, il vient toquer à la porte de ses copains. La fille, elle ouvre la porte, elle voit Pierre. Elle rentre, elle ferme, elle dit, Pierre est dehors. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent les autres? Non, c'est pas Pierre, c'est son ange. Ton ange te ressemble. Ça, c'est une leçon personnelle que j'ai vécue. Je ne savais pas que mon ange me ressemblait. Mais ce texte nous dit ceci. L'ange de l'Éternel, quand autour de ceux qui le craignent. C'est incroyable. Ça veut dire, si tu ne crains pas Dieu, ton ange gardien s'éloigne et c'est les puissances des ténèbres qui s'approchent de toi. Je répète, ouvrez les oreilles de Mickey. Quand tu ne crains pas l'Éternel, les puissances des ténèbres auront la force de te persécuter, de te tourmenter, de te tyranniser. Crains Dieu pour que l'ange que Dieu a mis auprès de toi, qui te garde, l'ange de l'Éternel, est pour ceux qui le craignent. Alléluia. Allez, vous allez vous lever, on va prier. Le reste, je vous fais grâce. Une autre fois. Ça sera pour une autre fois. L'ange, le psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Amen. Parce que le diable te guette tous les jours. Il n'y a pas un jour où il dort. Mais si toi, tu crains Dieu, l'ange de Dieu campe autour de toi. Même, ça parle aussi que la crainte de Dieu amène la santé dans ton corps. Encore. Amen. Et il dit... Quand tu crains Dieu, Dieu entend ton cri. Amen. J'ai compris quand Jésus dit, pour moi, je sais qu'il m'exauce toujours. Tu pries? Qui prie ici? Ok. Est-ce que vous êtes toujours exaucé? Vous savez que c'est possible? Ceux qui craignent l'Éternel, Dieu entend leur cri et les exauce. Comment il fait? Tout simplement, c'est parce que tu le crains, tu ne veux ce que lui veut. Tu ne l'imposes pas tes idées à toi. Amen. Tu veux ce que lui veut. Ta motivation, c'est de le faire plaisir. Ta raison de vivre ici-bas, c'est le rendre heureux. Il n'y a pas d'autre raison d'existence ici-bas. Alléluia. On va fermer nos yeux. On va lui dire, Seigneur, enseigne-moi la crainte de l'Éternel. S'il te plaît, enseigne-moi. Je ne sais pas comment l'avoir, mais que je préserve ma langue du mensonge, mes lèvres de mauvaises paroles et des propos. Seigneur, je décide de pardonner toutes les personnes qui m'ont fait mal. Seigneur, je veux être un instrument de bénédiction pour ma nation. Que je ne vienne pas sur cette terre, que je ne parte pas comme je suis. S'il te plaît, utilise-moi. Que je ne sois pas concentré sur ce que ça peut me rapporter, mais que je me concentre sur ce que ça peut te faire plaisir. Te faire plaisir soit ma raison de vie ici-bas. Il n'y en a pas d'autre chose qui m'intéresse, mon roi. Et tu le sais, mon bien-aimé, étends ta main. Viens au secours de chacun d'entre nous. S'il te plaît, écoute nos prières. Entends nos supplications. Enseigne-nous la crainte de Dieu. Enseigne-nous l'amour de la vérité. Enseigne-nous d'être attaché à toi jamais. Qu'on fasse de toi notre délice et notre raison de vie ici-bas. Et tout le reste n'a aucune importance. Je t'en prie, mon bien-aimé, viens, touche, parle au cœur, guéris les âmes et les esprits, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci aujourd'hui de ce que tu étends ta main. Alléluia. Déposez, je vous en prie. Si vous avez des problèmes de santé, il te guérit, tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi il te guérit, pour que tu ne sois pas distrait dans ton service. Il ne te guérit pas juste parce que pour te guérir, il te guérit parce que tu ne veux pas que tu sois distrait dans cette crainte de Dieu, dans le service du roi. Tu as une maladie, mets ta main là où tu as mal. Mais à condition qu'aujourd'hui tu dis, je suis distrait par ma maladie, guéris-moi. Amen. Allez-y avec moi. Seigneur Jésus, je suis distrait par ma maladie. Guéris-moi parce que je veux te servir. Sans distraction, secours-moi, enseigne-moi la crainte de l'Éternel. Oh, que l'ange de l'Éternel campe autour de moi. Et je maudis toute âme qui est forgée contre ma vie, qui m'empêche de te servir avec liberté, qui m'empêche de te servir et qui met la distraction en moi. Je maudis aujourd'hui. J'ai décidé, j'ai fait le choix de te faire plaisir, de craindre ton nom, d'aimer ta voix. Viens à mon secours, au secours de ma nation, au secours de ma famille, au secours de mon pays. De grâce, mon roi. Merci, Jésus. Amen. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, on va rester un instant, juste on va mettre de la musique si on peut.